Salut à tous et bienvenue dans les jardinières. Comme tous les samedis, on se retrouve pour répondre à vos questions jardinage en tout genre. Nous sommes le samedi 13 octobre et nous sommes en bonne compagnie ce matin. C'est Fabrice Rondet de Porrentruy qui se fera un plaisir de vous renseigner et dissiper tous vos doutes concernant vos plantes. Fabrice, bonjour.
Bonjour.
Et puis comme d'habitude, nous sommes également avec notre jeune et belle jardinière, Sophie, bonjour.
Bonjour Stéphanie, merci pour le compliment de bon matin. Bonjour Fabrice, bonjour à tous. L'été indien se prolonge sur la région et c'est le moment de poser toutes vos questions pour embellir vos jardins durant cet automne. Des questions que vous pouvez poser en direct à notre paysagiste. Vous avez le choix entre plusieurs moyens. Vous pouvez le faire en direct en appelant au 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute et avoir ainsi une réponse personnelle. Vous pouvez aussi opter pour le SMS en envoyant jardin suivi d'un espace et de votre question que vous envoyez au 939. Et sinon, il existe également un formulaire que vous trouvez sur nos sites RFJ, RJB et RTN.ch sous l'onglet émission questions aux jardinières.
Et bien voilà, tout est dit, les jardinières, c'est parti.
Les jardinières, Sophie et Stéphanie.
Une première question qui nous vient de Mireille de Montalcher. Elle aimerait mettre du fumier sur son jardin prochainement. Alors il lui reste des légumes, des racines rouges, poireaux, épinards qu'elle aimerait laisser au jardin. Est-ce qu'elle peut étaler le fumier sur la terre aux alentours sans risque pour les légumes ou alors comment procéder? Et elle nous signale également qu'il s'agit de fumier issu d'élevage bovin, étant assez frais, qui vient de chez son voisin. Voilà une petite question odorante pour vous Fabrice. Pour commencer.
Alors ça commence bien. Donc effectivement, le fumier, ben, c'est très bien pour enrichir nos sols. Ce qu'il y a, ben, bien sûr, c'est épargner un petit peu les cultures qui sont en place maintenant pour pouvoir les travailler, les récolter sans que ce soit un peu souillé, si on peut parler comme ça. Et puis ensuite, moi, ce que j'aurais comme préférence, peut-être, c'est un fumier qui soit peut-être vieux, qui a un petit peu travaillé, parce que s'il est trop frais, on peut avoir des problèmes de brûlure, de phytotoxicité au niveau des plantes. Donc ce serait peut-être bien d'avoir quelque chose de plus ancien pour qu'il soit un petit peu moins dangereux vis-à-vis de ce qui soit en place.
Merci pour cette première réponse. Et puis on a Vincent de Vandelincourt qui nous demande comment tailler ses rosiers et à quelle époque de l'année le faire.
Alors maintenant, on a encore des rosiers dans nos plates-bandes qui sont en fleurs, qu'on peut vérifier à gauche, à droite, ça dépend les variétés, ça dépend un peu comme c'est protégé, mais comme la météo est assez plaisante en ce moment, on a encore pas mal de fleurs et de petits boutons qui peuvent encore s'ouvrir ces prochains jours. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est peut-être attendre que les premières gelées arrivent. Là, on va rabaisser nos rosiers selon le type de variété, plus ou moins fortement. Mais on va faire plutôt réduire peut-être de moitié, on va dire de la taille habituelle, de la taille actuelle de la plante. Et puis la vraie taille à trois yeux, on va la faire pour tout ce qui est polyanthe à grande fleur, bien sûr. On va la faire en sortant de l'hiver après les gels. Donc on va travailler en deux temps. Dans un premier temps, on raccourcit la plante pour la consolider, la préparer pour l'hiver, on va dire. Et ensuite, on va mettre une vraie taille à trois yeux au printemps, juste avant le démarrage de la végétation.
Alors ça, c'est pour les rosiers qui sont dans les plates-bandes. Est-ce que c'est la même façon de faire pour ceux qui sont dans des pots? C'est vrai qu'on voit souvent des rosiers aussi qui sont dans des grands pots à l'extérieur. Est-ce que c'est le même système?
Oui, on enlève déjà tout ce qui est floraison, on les prépare un petit peu, on laisse passer l'hiver, et puis comme ça, on a le gel de ce qui va travailler selon les années, un petit peu ou fortement. Et puis après, justement, quand ce gel est passé, si on avait taillé trop fortement, par exemple, et puis que les rameaux aient brûlé, on n'aurait plus de démarrage possible, donc la plante mourrait. Tandis que si on taille en deux temps, on fait une taille de préparation, puis après, on laisse passer l'hiver, les gels. Une fois que le froid a disparu, là, on fait cette vraie taille. Et là, on a beaucoup moins de risques de voir une plante qui sèche ou qui brûle au niveau des rameaux à cause de ça.
Alors, on parlait fumier, on va parler compost à présent, Fabrice. Ah, ce matin. Au fond de mon jardin, c'est Bernard qui nous envoie cette question et qui a un tas de compost depuis des années. Mais il n'y a aucun ver de terre, nous dit-il. Alors, savez-vous pourquoi et qu'est-ce que je dois faire pour en avoir? Car ces petites bêtes me semblent indispensables dans un compost. Alors, Fabrice, est-ce que vous avez une réponse pour Bernard?
Alors, je pense que... Déjà, c'est juste, on a toujours un compost qui est habité par des insectes, par des vers pendant le travail, parce que c'est ça qui participe à cette création de terreau, depuis les matières organiques. Et puis ensuite, je pense que s'il ne voit pas ses petits vers, c'est peut-être qu'il travaille, enfin que lui, il a gratté ce compost en surface. Comme maintenant, on n'arrose pas un compost, et que maintenant, on a un terrain qui est assez, un temps qui est assez sec, pas d'eau, pas de pluie. Donc du coup, peut-être que ces vers, ils se tiennent plus dans le cœur du compost. Donc c'est possible qu'on ait comme une croûte autour où c'est que ce soit un peu asséché et puis qu'on ne trouve rien du tout. Mais je pense que s'il mettait un ou deux coups de pelle dans son compost, il devrait trouver quelque chose.
On a une question qui concerne les lauriers roses. C'est de Nadine de Bienne et puis elle demande comment les tailler ? Est-ce qu'il faut les tailler ? Comment hiverner pour qu'en fait son laurier rose soit beau l'année prochaine ?
Alors là, si on veut faire une taille assez simple, c'est tout simplement former cette taille au niveau de la plante. On va regarder pour que d'un joli coup d'œil, elle soit présentable et ait une forme bien régulière par rapport à ce qu'elle souhaite obtenir, cette personne. Donc on prend l'axe, on prend la hauteur, on répartit tout ça. Et après, ce qu'on peut faire, c'est enlever tout ce qui est indésirable. Donc par là, j'entends ce qui aurait été cassé par mes aventures durant la saison. Les choses aussi où c'est qu'on a des branches qui se croisent. Donc pour ne préserver que des prolongements de rameaux qui partent en ouvrant bien la plante, mais tout ce qui rentrerait dans le cœur de la plante, tout ce qui serait fourchu, ce genre de choses on enlève pour qu'on ait une plante qui soit bien agréable à regarder, mais aussi où c'est que l'air, la lumière puisse pénétrer jusqu'au cœur de la plante.
Les lauriers roses, Fabrice, c'est pas une plante qu'on doit mettre à l'intérieur pendant l'hiver ou pas du tout, ça résiste au froid ?
Non, alors c'est vrai que dans notre région, il est préférable quand même de prendre quelques dispositions pour leur faire passer l'hiver dans une pièce un peu plus fraîche, avec de la lumière, et où on peut contrôler assez facilement l'arrosage pour qu'elle passe bien l'hiver. C'est juste.
7h, 8h, les jardinières.
Une question qui nous vient de Claudine de Belpréhon qui demande comment traiter de manière naturelle une invasion de petites bestioles sur un petit cerisier. Elle ne sait pas trop comment définir ce que c'est comme petite bête, mais elle aimerait bien s'en débarrasser.
Alors maintenant, on ne devrait pas rencontrer grand-chose comme petite bestiole, mais on peut encore trouver bien sûr des choses. Avec cette météo, on y revient de nouveau, qui est très favorable encore. Mais je pense, moi, le mieux qu'il y a à faire, c'est si elle peut prendre des photos, des échantillons pour aller le montrer dans un point de vente autour de chez elle, pour justement favoriser l'identification. Pas prendre un produit qui détruise tout, mais vraiment favoriser l'identification pour arriver à travailler avec un produit qui cible bien et puis qui soit respectueux de l'environnement, l'arrivera justement à ses fins comme elle le souhaite.
Parce qu'il y a quoi comme risque justement ? Ça peut être quoi comme petite bête ? Vous avez une idée ou pas ?
Maintenant, des choses dangereuses, il n'y en a plus tellement, je crois. Donc je pense plutôt que c'est des petits insectes qui sont peut-être pas trop nuisibles. Mais justement, si elle veut savoir exactement ce qu'il a, si c'est nuisible déjà pour sa plante ou pas, par cette photo qu'elle ferait ou les échantillons qu'elle pourrait prendre, on pourrait tout de suite la renseigner ou bien qu'elle fasse venir un professionnel pour lui dire ça, écoutez, on laisse passer tranquillement la fin de la saison et puis soyez attentive au début de l'année prochaine, on fait un traitement avec une huile blanche ou quelque chose comme ça pendant l'hiver avant le démarrage de la végétation. Et puis les choses pourraient être réglées comme ça, que de faire un traitement et puis qui ne servent à rien maintenant. Donc c'est pour ça qu'en prenant maintenant un échantillon, une photo, on pourra la renseigner sur avec quoi et quand.
Ouais, c'est la meilleure chose à faire.
Oui.
On vient juste de recevoir un SMS qui nous dit ça, Fabrice. Nous voulons planter cet automne des arbres fruitiers sur le littoral neuchâtelois. Alors est-ce qu'il faut mettre du fumier ou de l'engrais au fond du trou ? Quel genre de terre faut-il ? Est-ce que vous pouvez venir en aide à ces auditeurs-là qui viennent de nous écrire donc des arbres fruitiers sur le littoral neuchâtelois ?
Alors, pour la plantation des fruitiers, on a plusieurs façons un petit peu de travailler. En général, quand on creuse le trou, déjà ce qu'on fait, la première couche de terre qu'on va creuser, on va la mettre sur un premier tas sur le bord du trou. En général, la deuxième partie de la terre qu'on va creuser, qui est beaucoup plus friable, qui est plus fine, qui est dépourvue de parties engazonnées ou herbeuses, on va la mettre sur un deuxième tas. Et après, la terre de fond, on va la mettre sur un troisième tas. On va ensuite mettre notre arbre à racines nues, bien souvent maintenant, pour les fruitiers, c'est comme ça qu'on va les planter. On va mettre notre arbre sur une petite pyramide de cette terre qui a qui provient de la deuxième couche, donc de terre, de la belle terre, sans herbe. On va poser notre plante dessus, on va la recouvrir les racines avec toujours ce même tas, et après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la terre de fond par-dessus cette couche de terre, pour après finir avec la terre où c'est qu'on a la croûte herbeuse. Et après, on va mettre du fumier là où moi, je ne mettrai en tout cas pas d'engrais maintenant parce qu'il ne va pas apporter grand-chose à nos fruitiers du fait qu'ils sont en repos végétatif. Donc cet engrais, si elle veut mettre de l'engrais, il faudra attendre cette personne qu'on arrive au réveil l'année prochaine. Et puis après, pour le fumier ou du compost, c'est pareil. Moi, je le mettrai plutôt l'année prochaine pour qu'il amène de la fraîcheur, mais qu'il amène aussi de la matière nutritive.
Et puis pour rester dans le domaine des arbres fruitiers, on a une question qui est où et comment conseillez-vous de planter des pommiers nains ? Est-ce que c'est différent d'un pommier de taille normale ?
Non, la seule différence qu'il va y avoir, c'est qu'on a une taille qui est différente aussi bien en hauteur qu'en largeur. Donc on pourra planter plus de sujets avec du nain qu'avec du mitige ou du haut de tige. Après, ça c'est exactement pareil au niveau de l'emplacement sur une parcelle. On va privilégier un endroit bien exposé, avec de la lumière, avec de l'air, et puis pour avoir un bon développement de nos arbres et arriver avec une bonne maturité pour nos fruits dans la saison.
Et finalement, avec des arbres fruitiers nains, est-ce que les pommes sont plus petites ou pas forcément ?
Alors du tout, non, ça n'a rien à voir la grosseur du fruit. Si on a un problème avec la grosseur du fruit, comme on a pu le constater cette année chez certaines personnes, c'est tout simplement parce que les arbres sont peut-être des fois trop chargés. Ils n'arrivent pas à tirer assez d'eau dans le sol ou de nourriture pour grossir tous les fruits. Donc ce qu'il faudrait faire, c'est un éclaircissage durant la saison une ou deux fois pour avoir beaucoup moins de fruits, pour que l'arbre, par rapport aux branches qu'il a, la racine qu'il a, puisse arriver à porter à maturité ses fruits d'une grosseur idéale. Et puis après, ça peut être aussi lié tout simplement parce que la quantité de fruits par rapport à l'arbre est bonne, mais parce qu'on n'a pas eu assez d'eau, on a un terrain peut-être qui est un peu plus difficile. Et puis du coup, si on manque d'eau, l'arbre, il va arriver avec à maturité des fruits plus petits. Donc c'est pas lié du tout à la forme de la plante, que ce soit du bas-tige, du mitige ou du haut-tige.
Les jardinières.
Deuxième partie des jardinières, nous sommes toujours avec Fabrice Rondet, paysagiste à Port-Antruy, qui répond volontiers à toutes vos questions jusqu'à 8h.
Et je vous le rappelle, les jardinières, c'est l'émission qui prend forme grâce à vous. Toutes vos questions sont les bienvenues au 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Vous aurez ainsi l'occasion de discuter directement avec notre professionnel. Et si vous êtes trop timide pour prendre la parole de si bon matin, vous pouvez opter pour le SMS à envoyer au 939 en écrivant « jardin » suivi d'un espace et de votre question, ou encore par le formulaire que vous avez sur nos sites internet sous l'onglet émission questions aux jardinières.
Alors on a reçu une question concernant un joli bonsaï ficus, Fabrice. C'est une personne qui donc l'a reçu et elle l'arrose une fois par semaine. Les feuilles ont bien grandi, mais en quelques semaines maintenant ça devient trop grand. Alors est-ce qu'elle peut changer de pot ou est-ce qu'elle doit mettre son bonsaï ficus à un autre endroit ? Comment s'en occuper de la meilleure des manières ?
Alors les bonsaïs, c'est des arbres à petit développement, ça on le sait tous. Donc s'il grandit de trop, moi je pense en tout cas pas qu'il faut qu'elle régule différemment son arrosage. Du moment que le feuillage reste beau vert, ça veut dire que l'arrosage est juste. Donc par rapport à ça, si la plante grandit trop maintenant, ce qu'il faut faire tout simplement, c'est le tailler. Chaque bonsaï doit être taillé aussi pour justement le maintenir dans un volume et dans une certaine hauteur, aussi bien dans la partie aérienne que dans la partie racinaire de la plante. Donc de vouloir le transporter peut-être dans un pot plus grand ou un autre endroit aura des incidences qui peuvent jouer soit sur la qualité de la plante, on pourrait avoir des jaunissements si c'était le mettre dans un autre endroit, mais si on le rempotait, ce qui pourrait se passer aussi, c'est le mettre dans un pot trop grand, c'est qu'on pourrait avoir de nouveau au niveau de la végétation, peut-être une excitation supplémentaire, et puis on pourrait peut-être passer sur une plante qui ne serait plus un bonsaï, mais qui deviendrait, qui chercherait à reprendre son développement normal. Donc moi je pense qu'il faudrait plutôt qu'elle regarde pour se documenter sur comment entretenir un bonsaï par la taille, et puis qu'elle comprenne vraiment le mécanisme du développement et comment le contrôler. Donc ça, c'est plus important.
Et nous avons reçu un appel. Sophie, vous avez une question d'une personne qui vient de vous appeler. On écoute votre question justement.
Oui, exactement. Alors, on vient d'avoir un appel de Marie de La Chaux-de-Fonds qui a un rhododendron. Et puis, elle demande si elle peut le déplacer simplement et si elle doit le couper.
Par le couper, je ne sais pas si elle entend le couper pour l'extraire, l'évacuer, ou si elle entend par là, par le tailler. Donc ça serait peut-être bien qu'elle nous donne un peu plus de précision. Mais pour le déplacer, pour le mettre dans un autre endroit, donc ce qu'il faut qu'elle cherche déjà, c'est un endroit qui lui corresponde, donc plutôt en situation nord-ouest. Selon les variétés, ça peut aller de ombragé à mi-ombragé. Après, ce qui est important aussi, c'est le terrain dans lequel elle va le mettre en place. Il faut vraiment que ce soit un terrain de terre de bruyère. Donc, il faut qu'elle fasse une fosse de plantation, c'est qu'elle va retirer toute la terre qu'on a dans notre région, qu'elle mette une natte spéciale pour séparer justement cette terre de bruyère de notre terre régionale qu'elle aura en place. Et puis après, un arrosage pour que la terre se mette bien, enfin que cette terre de bruyère se mette bien autour de la racine, autour de la motte qu'elle aura prélevée. Et puis après, ce sera bon. La plante va redémarrer gentiment au printemps prochain. Mais après, pour ce qui était de couper, je pense qu'on a une petite taille qu'on peut faire sur la plante, de nouveau pour la rééquilibrer, enlever les inflorescences qui sont pas assez, qui sont sèches. Et puis, il n'y a pas grand-chose à faire parce que les rhododendrons sont des plantes qui sont assez compactes dans leur croissance, assez régulières. Donc, on a juste une petite égalisation à faire, j'imagine.
Et si vous aussi, vous voulez poser votre question à Fabrice Rondet, vous pouvez composer le 0900 70 20 20 pour 36 centimes la minute, ou alors toujours envoyer le SMS au 939. Je vous rappelle que vous notez le mot jardin, un espace et votre question. On a reçu une question de Claude de Bienne qui nous dit la chose suivante. Je viens d'acheter un petit bananier en pot, puis-je le planter en terre ou est-ce préférable de le laisser dans son pot ?
Alors, on a pas mal de bananiers dans la région qui sont plantés en pleine terre. Ce genre de plantation, du fait que c'est des plantes exotiques, demande un certain choix d'emplacement par rapport à leur exposition. Il ne faudrait pas les mettre peut-être dans des courants de bise, il faudrait les mettre dans des courants qui soient assez protégés, surtout au printemps, c'est là que ça pourrait être le plus sensible. Et maintenant, pendant la période estivale, ça ne présente pas trop de problèmes pour leur développement. Ils se développent tous assez bien, quelles que soient les régions qu'on a par ici. Il y a peut-être juste en altitude où c'est que ça va moins bien, ça c'est certain. Mais après, pour ce qui est de la période hivernale, là, il faudra songer à mettre en place une protection hivernale. Là, il peut aller regarder sur Internet. Il y a plusieurs façons de protéger nos plantes en hiver. Et par rapport à ça, il choisira celle qui lui convient le mieux. On a aussi dans nos magasins plusieurs choses qui nous sont proposées pour nous aider à faire ces protections hivernales. Donc ça, il peut songer à le mettre en pleine terre sans problème.
On a une question qui nous arrive juste maintenant de Nathalie de La Neuville. Elle nous écrit « Je vais acheter une plante contre les chats. Je devrais la déposer sur mon balcon à un endroit où elle sera en plein soleil. Est-ce que ces plantes supportent le soleil ? Est-ce qu'elles passent l'hiver ? Et ont-elles besoin de beaucoup de soins ?» Elle a mis en parenthèse de l'eau. Merci beaucoup.
Alors, si c'est la plante que j'imagine, c'est des plantes qui sont plutôt herbacées. Donc, on a quelque chose qui risque peut-être de souffrir durant la période hivernale. En général, on les a dans les appartements, dans les maisons. Et puis, c'est quelque chose au niveau de l'arrosage qui demande un petit peu comme toutes les plantes, que ce soit pas trop mouillé, laisser essuyer un petit peu entre deux arrosages. Et puis, pas qu'elle ait les racines dans l'eau. Donc, après, pour la laisser sur le balcon, il faudra regarder un petit peu que la plante se développe toujours bien, mais avec le froid qu'on a, c'est une plante qui pourrait aussi diminuer dans sa croissance. En appartement, elle pourra avoir quelque chose qui soit plus régulier, puis qui continue de se développer. Moi, je pense que maintenant, vu qu'on est en octobre, qu'on tire sur la fin octobre même, je pense que ce serait mieux de l'avoir à l'intérieur qu'en plein air.
On a reçu, on a eu oralement une question d'un de nos collègues qui a dans son bureau un Dracanéa. Alors Fabrice, je vous l'ai montré tout à l'heure, hein, ce Dracanéa, vous avez vu qu'il avait des pointes sèches, des feuilles un peu jaunes. Alors c'est vrai que c'est une plante quand même assez commune que beaucoup de monde a dans son appartement ou sa maison. Et c'est sûrement un problème assez récurrent. Alors quel conseil vous pouvez donner à tous les gens qui ont un Dracanéa avec des pointes sèches et qui ne savent pas comment s'en occuper ?
Alors ça, c'est un problème qui n'est pas propre à cette plante, c'est un problème qui est propre à toutes nos plantes vertes, enfin toutes nos plantes d'intérieur. Donc on a deux, trois petites choses à faire attention maintenant qu'on va rentrer dans une période où c'est qu'on a moins de luminosité, où c'est qu'on va aussi jouer avec la température des pièces qu'on va régler avec nos chauffages. Ou alors aussi par rapport à l'humidité ambiante. Donc moins de luminosité dit qu'il faudra peut-être changer la place, de place la plante pour la rapprocher peut-être d'une source de lumière. Au niveau de l'arrosage, il y aura aussi, si on apporte des engrais, peut-être un apport d'engrais qu'on va espacer plus dans le temps. Après, on a aussi par rapport à ça un arrosage à faire attention. Toujours la même chose, laisser essuyer entre deux arrosages. Faire attention aussi que le pot soit percé pour qu'il y ait un bon drainage qui se mette en place, pas que la plante ait toujours ses racines dans un substrat trop humide. Et puis après, par rapport à ça, la dernière chose qu'il faudrait faire attention, c'est au niveau de cet air ambiant qui devient sec par la montée de nos chauffages. C'est vaporiser un petit peu d'eau une fois par jour ou une fois tous les deux ou trois jours. Et puis comme ça, on devrait avoir ces extrémités des feuilles qui ne sèchent plus. Donc en faisant attention à ces trois choses-là, l'arrosage, la source de lumière, l'air ambiant, on devrait pouvoir faire passer la période hivernale à nos plantes d'intérieur facilement.
Les jardinières.
On a un SMS qui nous est parvenu pendant la pause musicale. La question, c'est pourquoi les pointes de mon yucca deviennent brunes ?
Alors ben ça, c'est typiquement un des trois facteurs, comme on a vu, qu'il fallait faire le plus attention maintenant qu'on allait rentrer dans cette période de repos. Et puis aussi qu'on allait rentrer nos plantes, fermer les fenêtres. On avait un air ambiant qui allait commencer d'être plus important dans les maisons, plus sec. Donc il fallait commencer à regarder, peut-être pour vaporiser un petit peu d'eau sur nos plantes, une fois par jour, une fois tous les deux, trois jours, une fois par semaine. Mais en tout cas, faire attention selon l'hygrométrie de notre pièce ou de notre appartement ou maison pour mettre un petit peu plus d'humidité pour que nos plantes se comportent un petit peu mieux et sèchent un peu moins leur extrémité de feuilles.
C'est quelque chose qui soigne vraiment la sécheresse de...
Mais ça se fait très facilement, ouais. Juste en vaporisant, les choses changent radicalement. Ouais.
On a reçu un autre SMS de Maddy. Elle a un laurier rose sur son balcon, alors est-ce qu'elle doit le rentrer pendant l'hiver ? Elle est à la Chaux-de-Fonds.
Oui, alors effectivement, ça fait partie des plantes un petit peu à risque quand même, on va dire. Donc, il faut tout simplement, comme on a vu avant, on peut profiter de mettre un petit coup de sécateur pour équilibrer la plante. Une fois que ça s'est fait, on peut supprimer une ou deux branches pour un petit peu l'aérer, pour enlever ce qui serait indésirable, ce qui aurait été cassé, comme on en a parlé un petit peu avant avec ce type de plante. Et puis, une fois que c'est fait, eh bien, il faut la rentrer dans une pièce où c'est que la température peut être un petit peu plus basse, pas forcément dans l'appartement, mais si on un garage avec une bonne source de lumière, on peut la mettre dans cette pièce qui soit hors gel, et puis contrôler l'arrosage pour qu'on ait peut-être un apport d'eau par semaine. En règle générale, il faut être régulier, pas trop important, juste apporter un peu d'eau, et en tout cas pas que la plante ait les pieds dans l'eau. Donc laisser essuyer entre deux arrosages, pas tenir cette motte toujours humide, et ça devrait passer l'hiver sans trop de problèmes. Elle risque d'avoir 2-3 feuilles jaunes. Après, ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'une plante en pot, normalement on nous dit sur les engrais qu'il faut mettre un apport par semaine durant la saison où c'est qu'elle croisse énormément, et après pendant leur repos végétatif en hiver, une fois par mois pourrait suffire. Donc en faisant ça, on devrait avoir une plante qui passe bien l'hiver et qui redémarre très bien au printemps.
Et puis la pause musicale a été productive, on a reçu un troisième SMS. Mes piments ont les feuilles qui deviennent vert pâle entre les nervures. Il y a de minuscules points blancs comme des œufs. J'ai remarqué des mini-toiles entre le tronc et les feuilles. Que faire ? C'est Marie Desbuttes qui nous dit ça.
Alors comme tout problème un petit peu phytosanitaire, que ce soit des maladies ou des parasites, le mieux pour être sûr, c'est d'identifier correctement toujours notre problème. Donc soit en prenant un échantillon, soit en prenant une photo, d'aller dans un point de vente. Et puis là, on pourra nous orienter sur le type de ravageur, si c'est un ravageur, si c'est un puceron la Nigère, si c'est de la cochenille, si c'est, bref, tout type de ravageur comme ça. Et là, on va donner le bon produit. Et par rapport à ça, après, le souci disparaîtra assez rapidement. et la plante pourra directement après se renforcer. Plutôt que de traiter avec un mauvais produit, on n'a pas de réaction, la plante continue de végéter et après on peut perdre assez rapidement au niveau de cette plante des bouts de branches ou des bouts de feuilles. Donc vaut mieux identifier ça correctement au départ.
On va parler pommes, Fabrice. Elles sont bientôt toutes cueillies. On a vu qu'elles débordaient des arbres. Alors certains font du jus de pomme, d'autres des compotes. Mais si on veut les conserver le plus longtemps possible sous forme de vraies pommes, comment on peut s'y prendre pour qu'elles restent fraîches le plus longtemps ?
Alors si déjà à la base, à la cueillette, on fait une sélection, si on fait une transformation des fruits, on peut faire une sélection, garder que les fruits les plus sains, les plus beaux pour la conservation. Puis après, avec les fruits qui sont un peu tachés ou qui ont été tapés, on peut justement les utiliser pour faire des jus de pommes, pour faire des sirops ou pour faire toutes sortes de choses. Donc ça, c'est déjà peut-être le premier point. Après, le deuxième point, ça dépend le type de cave. On n'a plus la chance, malheureusement, maintenant, d'avoir des belles caves chez nous. Donc, on peut avoir recours à différentes choses. Une pièce où c'est que l'humidité et la température soient assez constants, assez réguliers. Donc, en tout cas, pas trop chaud, assez d'humidité. Et puis après, on peut avoir aussi les caisses qu'on trouve dans des points de vente qui sont en Sagex. Donc on met ces fruits là-bas dedans, on les contrôle assez régulièrement parce que rassemblés, on peut faire augmenter la maturation des fruits. Certains fruits se gardent, certaines variétés vont se garder plus que d'autres. Donc en faisant attention à ça, on va contrôler aussi l'état de nos fruits. Et si on avait des fruits qui devaient se gâter, par là même, on pourrait aussi, par ce contrôle régulier, les enlever pour que le reste de la récolte qu'on a encore se garde correctement et le plus longtemps possible.
Et puis, pour finir, on est le 13 octobre, donc on a commencé l'automne. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le jardin en ce moment? Il fait un peu froid le matin, la terre, elle se gèle un petit peu. Qu'est-ce qu'on peut faire?
Alors ben il y a la fin de préparation des légumes qu'on a encore en place. On va commencer à nettoyer ce qui est en fin de production. On a des tomates, on a des choses comme ça. Après on a d'autres choses qui vont rester encore un petit moment en terre, donc on peut travailler là peut-être les surfaces si on veut nettoyer, désherber, maintenir ça. Après bêcher, ça risque de se faire un petit peu plus tard normalement. Et puis après on a les fins des récoltes pour aussi les fruitiers. Après, si on veut commencer à tailler un petit peu les petits fruits, des choses comme ça, pour redessiner, pour remettre propre un petit peu notre surface de jardin destinée à eux, ben, ça peut être sympa aussi d'avoir un coup d'œil un peu propre. Et puis après, on peut commencer de se reposer aussi, parce que la période était assez intense ces derniers temps. Et puis en profiter aussi un petit peu différemment.
Eh bien exactement, il ne faut pas oublier de se reposer.
Exact.
Et nous, c'est ce qu'on va faire. Les jardinières touchent à leur fin. Il est bientôt 8h. Merci Fabrice Rondet d'avoir répondu aux questions nombreuses aujourd'hui. On vous souhaite une belle journée et à bientôt.
Merci, bonne journée, bon week-end.
Et merci à vous qui avez posé ces questions justement. Et n'hésitez pas les prochaines semaines pour les poser si vous n'avez pas osé ou simplement pas eu le temps de le faire ce matin.
Les jardinières reviennent donc la semaine prochaine à la même heure, mais vous n'avez pas besoin d'attendre une semaine pour poser votre question qui vous vient à l'esprit durant la semaine. Vous pouvez tout simplement l'envoyer dès maintenant et à tout moment par SMS au 939 ou grâce au formulaire présent sur nos sites. Bon week-end et à la semaine prochaine.
Bon week-end.
7h, 8h, les jardinières.